Même si vous êtes rebelle à toute forme de mathématiques ou de physique, vous connaissez quand même la plus célèbre de toutes les équations, E égale mc2, une formule que l'on associe au meilleur des cas à la puissance de l'énergie atomique. Les équations de la physique représentent pour le public le symbole du pouvoir un peu froid et déshumanisé de la science. Et pourtant, mon invité, le physicien Bruno Mansoulier, s'est mis en quête de nous réconcilier avec les lois physiques en nous montrant l'élégance des équations. Il publie un ouvrage chez Flammarion avec les illustrations de Lison Bernard. Ils sont avec nous dans un instant pour nous plonger donc dans la 7 séance des équations et répondre à vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un saut en arrière de 252 millions d'années au cœur de la plus grande extinction de tous les temps.
Oui, une crise passée qui malheureusement ressemble de plus en plus à celle qui se prépare pour la planète et des chercheurs qui commencent tout doucement à comprendre ce qui s'est passé après et comment la vie a perduré. On en parle avec le paléontologue Arnaud Braillard.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy qui s'intéresse cette semaine aux traces de cocaïne sur les billets de banque en circulation. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée par Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Dans un instant, nous partirons donc à la découverte des équations de la physique avec mes invités Bruno Mansoulier et Lison Bernet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bruno Mansoulier, une équation en physique, c'est quelque chose d'élégant, de sensible, loin de cette image un peu froide qu'on peut en avoir. En tout cas, c'est ce que vous nous invitez à découvrir.
C'est ce que j'essaie de transmettre, en effet, oui. On peut lire les équations avec la vue d'une personne passionnée par la nature. On peut voir l'équation derrière l'arc-en-ciel, comme j'essaie de montrer dans l'introduction du livre.
Oui, différentes façons justement de comprendre la nature. Et Lison Bernet, vous êtes illustratrice scientifique, mettre des images justement sur des notions parfois très abstraites, c'est votre boulot, hein ?
Oui, après, l'équation, elle parle toujours du monde réel. Alors moi, j'y ai pas directement accès parce que je peux pas lire ce langage, mais il y a quelqu'un qui en parle. Donc là, Bruno, j'ai le texte où il me raconte cette équation, ce qu'elle a changé dans la pensée, dans la façon de voir le réel, de voir les mouvements de l'univers. Donc ça, je peux le lire.
Voilà. Ouais. Et justement, on lui fera lire aussi des équations pour qu'on entende ce langage avec vous dans un instant. Avec bien sûr aussi les messages des auditeurs qui nous rejoignent dès maintenant sur le site de l'émission. Et il y a 252 millions d'années, de gigantesques éruptions volcaniques déversaient des tonnes et des tonnes de gaz toxiques dans l'atmosphère et recouvraient l'équivalent de la superficie de l'Europe sous plusieurs kilomètres de lave. S'en est suivie la plus grande extinction de tous les temps. Une équipe internationale de recherche vient de mettre la main justement aux États-Unis sur un gisement fossile foisonnant montrant à quoi ressemblait la vie après la catastrophe. C'est une découverte inattendue parue dans le journal Science Advances dont vous êtes le coordinateur Arnaud Braillard. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes paléontologue chargé de recherche CNRS au laboratoire biogéosciences à Dijon. Alors, le gisement de fossiles que vous avez déniché près de la ville de Paris, mais dans l'Idaho, aux États-Unis, est incroyablement riche. Décrivez-nous justement cette vie sous-marine telle que vous l'avez retrouvée fossilisée.
Alors, effectivement, c'est un gisement qui correspond à un domaine marin qui contient énormément d'espèces différentes et qui comprend aussi bien des espèces qui vivaient dans la colonne d'eau que des espèces qui vivaient sur les fonds marins. Alors, parmi ces espèces, on peut y voir des étoiles de mer, des crinoïdes, des éponges, des crevettes et des poissons ou des requins encore.
Des crinoïdes, qu'est-ce que c'est ?
Alors, des crinoïdes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des lys de mer. C'est apparenté un petit peu aux oursins ou encore aux étoiles de mer. Il faut imaginer ça comme un petit peu une étoile de mer qui vivait fixée par un pied.
Pourquoi une telle biodiversité est exceptionnelle pour cette époque de l'histoire de la Terre ?
Alors, c'est relativement exceptionnel puisque ça sort du modèle couramment accepté où après une extinction de masse, notamment une extinction d'une telle ampleur qui a éradiqué un peu plus de 90% des espèces marines, normalement la vie devrait remettre plusieurs millions d'années à réapparaître après cette extinction de masse. Or, il se trouve que là, on a une faune extrêmement abondante, très rapidement après l'extinction, seulement un million et demi d'années.
Ah oui, c'est rapide.
Est-ce que dans l'autre sens, on pourrait pas remettre en cause l'extinction en elle-même et le chiffre 90% de la vie marine qui a disparu ?
Non, on a des estimations qui oscillent entre 80 et 90% aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que c'est quasiment toute la faune et toute la flore hein, aussi sur les continents qui a été touchée par cette extinction. Et finalement, les 10-20% restants survivants ont donné toutes les faunes qui ont donné les organismes modernes et les écosystèmes modernes tels qu'on les connaît aujourd'hui.
Alors, parmi les fossiles que vous avez découverts, il y en a quelques-uns qui sont très intéressants et très impressionnants. Est-ce que vous pouvez nous en décrire un ou deux ?
Oui, bien sûr. Alors, les plus intrigants qu'on ait retrouvés, ce sont une espèce d'éponge qui, en fait, on vivait il y a 500 millions d'années et qui a disparu pendant 200 millions d'années pour réapparaître dans ce gisement. Et une autre espèce assez intrigante est une espèce qui correspond à un ancêtre des calmars actuels. Et normalement, dans le registre fossile, ces espèces étaient censées apparaître que 50 millions d'années plus tard.
Ouais, c'était des animaux de quelle taille à peu près ? Vous parlez du calmar, par exemple ?
Alors, ce qui est apparenté à un calmar actuel devait faire entre 15 et 20 cm. Alors, ça avait globalement la forme des calmars actuels. Mmh. Cependant, leurs bras et leurs tentacules étaient entièrement recouverts de crochets, ce qui en faisait des prédateurs sans doute assez efficaces.
Redoutables, oui. Ouais.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie aquatique, dans l'eau, il y a 250 millions d'années, pour que toutes les espèces disparaissent de cette manière ?
Alors, lors de cette extinction de masse, il faut comprendre que les éruptions volcaniques massives qui ont eu lieu en Sibérie à cette époque-là ont relargué des quantités énormes de gaz à effet de serre, de gaz toxiques, qui ont complètement perturbé l'équilibre physico-chimique de la planète, en engendrant notamment un réchauffement climatique marqué, ou bien encore une acidification des océans, ainsi qu'une baisse de la teneur en oxygène des eaux.
Alors, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. À la une, on en parlait la semaine dernière, le taux d'oxygène qui baisse, la température qui monte, le CO2 qui augmente. Ça ressemble à la crise qu'on vit aujourd'hui ?
Effectivement, c'est très tentant de faire un parallèle entre les deux situations. Alors, faut faire attention, bien sûr, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Mais ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on a commencé à engendrer, eh ben effectivement, au Permien-Trias, on voit la même situation qui s'est déroulée, en sachant qu'aujourd'hui, on est peut-être même sur des vitesses de changement beaucoup plus rapides qu'à l'époque.
Ah ben ça, c'est effrayant ce que vous nous dites alors, Arnaud Braillard, parce que là, 90% donc des espèces marines qui disparaissent, alors sur un temps très long, mais aujourd'hui, avec l'accélération de toutes ces conjonctions, on peut craindre quoi alors exactement ?
Alors, faut pas être pessimiste. Effectivement, c'est alarmant. Hein. Alors, je répète encore qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour vraiment faire des prédictions sur ce qui va se passer à partir du registre fossile. Mmh. Mais en tout cas, encore trop tard pour réagir. Mais effectivement, on semble se diriger vers une situation qui risque d'être semblable en termes d'extinction.
Comment votre étude pourrait nous aider à anticiper et à prévenir ce qui pourrait se passer ?
Alors, ça peut avoir certaines applications. Alors, peut-être pas à très court terme ou directement, mais en pouvant, par exemple, tenter de donner des pistes sur les organismes qui vont survivre plus ou moins facilement ou régions qui vont pouvoir plus ou moins protéger certains écosystèmes, on va être à même de dire, eh bien, justement, il vaut mieux protéger telle ou telle espèce.
Ouais. Et alors, en l'occurrence, quels organismes, par exemple, pourraient le mieux faire face à ce type d'événement catastrophique ?
Alors, si on prend l'exemple du Permien-Trias et du Trias inférieur, on s'aperçoit assez relativement facilement que des organismes comme les éponges, par exemple, risquent de survivre assez facilement et récupérer relativement vite après l'extinction. Il en est de même aussi pour certains organismes qui occupaient la colonne d'eau. Alors aujourd'hui, c'est un peu difficile de voir quels organismes pourraient être des analogues, mais en tout cas, on peut avoir certaines indications. Typiquement, mieux vaut protéger les coraux que les éponges. Il y a plus de chances que les coraux subissent de plein fouet les changements actuels par rapport aux éponges.
Alors, vous disiez qu'il fallait pas être pessimiste, mais si on lit votre étude, on peut être optimiste pour la vie, puisque 1 million d'années après la grande crise, la biodiversité est foisonnante. Ça veut dire que la vie se remettra de la crise qu'on est en train de construire, si jamais elle arrive.
Alors exactement, quoi qu'il arrive, la vie a de fortes chances de se remettre rapidement. Alors sous quelle forme, on ne sait pas exactement. Le plus inquiétant, ce sera de savoir si l'homme fera partie de ces nouveaux écosystèmes. Ouais. En tout cas, la vie en elle-même repartira, ça c'est sûr.
Bon,
et rapidement.
On va se déguiser en éponge, alors voilà. Ce sera le meilleur moyen de résister. Bruno Mansoulier, vous voulez réagir ?
Non, pas.
Ah bon, mais je voyais dans vos yeux que vous aviez envie d'apporter peut-être une équation à cette affaire.
C'est même très complexe.
Une dernière question, Axel ?
Oui, vous parliez de reptiles, ou alors j'ai cru entendre parler de reptiles. Il y avait des reptiles à cette époque-là ?
Alors oui, il y avait des reptiles marins, il y avait des reptiles aussi sur Terre, mais dans les océans, il y avait des reptiles marins, et notamment dans ce gisement, on a des restes, notamment des premiers ichthyosaures. Alors pour le grand public, c'est souvent représenté sous la forme d'organismes qui ressemblaient à des dauphins, sauf que c'était des reptiles.
Et qu'est-ce qui s'est passé sur Terre alors? Parce qu'on dit 90% donc de la faune sous-marine qui disparaît. Sur Terre, c'était exactement la même chose?
Alors sur Terre, il y avait aussi des faunes et des flores développées. En ce qui concerne la faune, il existait aussi des grands vertébrés, notamment les ancêtres de ce qui vont devenir plus tard les dinosaures et les mammifères. Mmh. Et eux aussi montrent des extinctions marquées, mais l'enregistrement fossile étant un petit peu plus lacunaire, il est difficile de faire des estimations... aussi précise, vraisemblablement on est plutôt sur des disparitions autour de 60-70% des espèces.
Merci beaucoup en tout cas Arnaud Braillard pour votre éclairage et ces projections peu réjouissantes évidemment. En tout cas cette étude est parue cette semaine dans Science Advances. Merci beaucoup à vous, à bientôt et Axel.
À demain.
À demain.
Exactement.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, bientôt la première image d'un trou noir. C'est l'incroyable objectif du projet Event Horizon Telescope, réunissant des dizaines d'équipes de scientifiques du monde entier. Du 5 au 14 avril, 12 radiotélescopes chinois, américains et européens vont se relayer pour observer certainement Sagittarius A, le trou noir au centre de notre Voie lactée. Ce trou noir ne laisse pas s'échapper la moindre lumière, mais les scientifiques veulent capturer l'image de son horizon, le contour du trou noir à partir duquel la lumière justement nous parvient. L'ensemble des données observations seront ensuite transmises à l'observatoire du MIT qui sera chargé de reconstituer une image qui devrait être publiée en 2018. Nous voyons en couleur grâce à nos ancêtres cueilleurs. Parmi les mammifères, seules quelques espèces de primates possèdent comme nous trois types de cônes dans les yeux, là où les autres espèces n'en ont que deux. Cette trichomatie nous permet de voir ce que nous considérons comme le spectre standard des couleurs. Une anthropologue canadienne a présenté ce week-end les résultats d'une étude portant sur 20 000 observations de 80 macaques et 30 espèces différentes, résultats montrant que les singes trichomatiques localisent et cueillent plus rapidement les baies que leurs congénères dichromatiques. Ainsi, notre riche perception des couleurs serait due à des ancêtres particulièrement bons à la cueillette. Et puis, pour repousser les moustiques, eh bien, évitez les bougies à la citronnelle. Et oui, afin de comparer différents répulsifs à moustiques commercialisés, des biologistes et des ingénieurs ont testé l'efficacité de 5 sprays, 5 appareils et une bougie à la citronnelle. Leurs conclusions sont sévères. À une distance d'un mètre de moustique, seul un spray à l'eucalyptus et un ventilateur diffusant un insecticide réduisent de 60% la chance de se faire piquer. Les autres produits ne réduisent cette probabilité que de 10 à 30%, voire ils sont totalement efficaces, comme justement la bougie à la citronnelle ou les repousseurs par ondes sonores. Et les équations dans un instant. I'm Conrad avec Sean à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h. Sur France Inter.
Et toute la physique en 15 équations, c'est un livre qui sort chez Flammarion, dont vous êtes l'auteur Bruno Mancelier. Vous êtes directeur de recherche au CEA IRFU, c'est l'Institut de Recherche des Lois Fondamentales de l'Univers. Vous travaillez donc en physique des particules et vous êtes au CERN, dans l'équipe de l'expérience Atlas, donc le grand accélérateur de particules.
Le LHC.
Le fameux LHC, oui. Et Atlas est une des expériences.
Atlas est une des quatre grandes expériences auprès de cet accélérateur.
Oui. Une des quatre cathédrales, on pourrait dire, du LHC.
Absolument. C'est d'ailleurs la plus grande en volume. Ouais. C'est la caverne dans laquelle elle est installée, à 100 mètres sous terre, mesure 45 mètres de long sur 25 mètres de diamètre.
Absolument. C'est très impressionnant de pénétrer justement dans ce CERN, qui est en fonctionnement en ce moment.
Qui est à un arrêt momentané pour maintenance, comme on fait toujours en hiver, mais qui est dans des années de fonctionnement, oui. On va repartir dès avril-mai.
Oui, et c'est là qu'on a découvert le fameux boson de Higgs, hein, pour rappeler la plus célèbre des particules. Hein.
En 2012. Hein.
Absolument. À vos côtés, Lison Bernet. Lison, vous êtes illustratrice scientifique avec une prédilection, paraît-il, pour la physique. Ça tombe bien. Hein.
Oui, oui.
Ouais. Vous êtes scientifique à la base ou pas?
Alors,
du tout?
Alors, pas du tout. J'étais plutôt même classée dans les cancres en sciences.
Ah, bienvenue au club.
Je trouve ça très drôle maintenant de travailler dans ces domaines-là.
C'est vrai. Et qu'est-ce qui vous plaît alors à dessiner des choses aussi compliquées parfois quand même?
Alors déjà, c'est assez paradoxal, mais comme c'est irreprésentable, en fait, on est assez libre.
C'est ça.
Ouais. Voilà, et je trouve ça assez exotique et j'aime bien rencontrer les physiciens, aller dans les machines et en fait voir un fonctionnement de pensée différent du mien.
Ouais. Et vous avez justement eu la chance de pénétrer au CERN.
Oui, plusieurs fois.
En plus, vous n'êtes pas très loin, vous êtes dans le Jura, je crois.
Hein.
On voit d'ailleurs notre village qui est dessiné dans le livre de Bruno Mancelier. Et donc, vous avez pu aller dans cet accélérateur impressionnant qui se trouve, on le rappelle, sous la frontière franco-suisse, 42 km de circonférence. 27, absolument.
Donc oui, je suis descendue plusieurs fois. J'ai eu la chance d'aller avec des équipes d'ingénieurs assez loin dans le tunnel, même avant que ça démarre. Donc moi, je suis assez émue quand je descends dedans.
C'est vrai. Ouais. Ouais. Ce sont des lieux incroyables, en tout cas, à voir. Hein, et pour essayer de comprendre aussi ce que les scientifiques recherchent. Parce que paradoxalement, ces lieux gigantesques servent à découvrir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, Bruno Mancelier.
Loin de là, on explore les plus petites échelles de dimension qu'on puisse atteindre expérimentalement.
Alors ce travail, vous l'avez fait d'abord vous du côté de la science et de la physique, Bruno Mancelier, avec l'aide donc de Lison Bernet pour essayer de visualiser un petit peu ce monde des équations qui peut nous faire si peur. Hein.
Il l'a plutôt écrit et moi après j'ai cherché mon interprétation.
C'est important pour vous. J'étais très content de rencontrer le dessin de Lison parce que elle disait que ça m'intéressait de rencontrer un mode de pensée différent du sien. Et c'est exactement réciproque. Et les illustrations du livre ne sont pas du tout des schémas scientifiques comme on pourrait faire dans un manuel, mais elle a eu complètement carte blanche en lisant le texte. Qu'est-ce que ça lui inspire? Et c'est des illustrations plutôt poétiques et sensibles.
À la fois sur certains des grands personnages, Dirac, on va en parler, Albert Einstein par exemple, et puis aussi sur des choses qui sortent de votre esprit, inspirées par exemple d'estampes japonaises.
Oui, en fait, quand je lis le texte, presque, c'est une compréhension par sédimentation. Donc, je lis le texte et je vais dessiner tout ce qui me vient. Et après, je vais chercher quelque chose qui va correspondre au texte, mais pas forcément expliquer l'équation.
Alors, Bruno Mancelier, vous avez choisi de nous faire aimer les belles équations de la physique. C'est ça aussi un peu l'objet de ce livre
tout
chez Flammarion.
Oui, ça a commencé par des conférences grand public que j'avais intitulées « Les plus belles équations de la physique », parce que j'ai un goût pour cette représentation du monde qui est très synthétique.
Vous êtes un sentimental de l'équation.
Je suis un peu un sentimental de l'équation, c'est très synthétique, ça peut être très très beau graphiquement. On va parler de l'équation de Dirac, il y a des symboles qui me paraissent extrêmement élégants. Et puis il y en a d'autres que d'ailleurs je trouve moins élégantes, bien qu'elles soient très importantes dans la physique, et j'en fais part dans le livre.
Je ne sais pas si vous savez qu'en 2014, il y a eu une expérience scientifique où il y a des mathématiciens qui sont passés dans un IRM et on leur a montré des équations jugées belles par leur père ou par eux-mêmes, et on s'est aperçu que c'était les mêmes zones du cerveau qui étaient activées que devant une œuvre d'art.
Ben justement, on va écouter le résumé exact de ce que vous venez de nous dire, Lison Bernet, avec l'extrait d'un reportage qui avait été réalisé autour de cette étude.
Pour beaucoup d'entre nous, les mathématiques sont une discipline difficile, voire rebutante. Mais pour les mathématiciens, certaines équations approchent le sublime. Pour preuve, cette expérience qui a été conduite par l'University College de Londres. En examinant par IRM fonctionnel le cerveau de 15 mathématiciens, les chercheurs ont découvert que certaines équations déclenchaient chez ces sujets une activité identique à celle que procure la vue d'une œuvre d'art ou l'écoute d'une grande symphonie. Trois formules semblent même être pour eux la quintessence de la beauté. Figurent en première place l'identité de l'air, qui avait déjà été qualifiée par Richard Feynman de formule la plus remarquable au monde. En deuxième position, on trouve l'identité trigonométrique de Pythagore, suivie par les équations de Cauchy-Riemann. Sachez enfin que la fonction zeta de Riemann dans le plan complexe est la formule qui a été jugée par ces mathématiciens comme la plus laide de toutes. De quoi déconcerter à nouveau plus d'un néophyte.
Alors Bruno Mansuet, est-ce que vous avez fait votre top 3 justement des équations les plus émotionnelles pour vous?
J'ai certainement fait mon top 1, en tout cas qui arrive en tête, c'est l'équation de Dirac, qui est malheureusement, qu'on ne voit que dans des années assez avancées d'université, donc c'est pas abordé ni au lycée, ni même dans les premières années d'université, mais pour un physicien des particules comme moi, c'est vraiment le summum de l'élégance, et elle a un autre avantage, enfin une autre caractéristique, c'est une de ces équations où l'auteur, l'inventeur, Dirac, a pu lire plus que ce qu'il avait cherché à y mettre.
Bon, on en parlera tout à l'heure, voilà, effectivement,
c'est une propriété absolument
elle a une place à part, effectivement, pour vous. Et alors, la plus moche, la plus laide, la plus froide pour vous, est-ce qu'il y en aurait une ou pas?
Alors, dans le livre, c'est un peu une coquetterie ou une plaisanterie. J'ai dit que la loi de la gravitation de Newton... ne m'a jamais tellement plu. Alors, évidemment, qui suis-je pour me comparer à ce géant qu'est Newton? Bon, c'est une plaisanterie, c'est vrai.
Mais là, c'est d'un point de vue esthétique, quasiment.
C'est d'un point de vue esthétique, oui. Alors, j'explique un peu pourquoi dans le livre.
Ouais. Alors, on parle beaucoup de mathématiques dans cet exemple. Or, précisément, le livre est autour des équations de la physique. Hein. Ça, c'est important de faire la part des choses, parce que vraiment, c'est basé aussi là-dessus pour expliquer les lois de la nature. Hein.
Voilà, moi, ce qui me plaît dans les équations de la physique, c'est que je peux les superposer avec ma vision du monde qui est celle de tout le monde. Mmh. Comme je disais, là, je vois un arc-en-ciel avec les yeux de tout le monde. Je suis ému par un bel arc-en-ciel sur un beau paysage. Mais je connais aussi les lois de l'optique qui vont créer cet arc-en-ciel. Je peux calculer sa taille apparente et puis je connais comment est faite la lumière, comment elle a été générée dans le soleil, les réactions nucléaires qui engendrent tout ça. Mais c'est pas décorrélé, ça se superpose, c'est un niveau de lecture, un niveau de sensibilité différent. Et c'est ça que j'essaie de rendre. Ces équations, elles sont loin d'être simplement limité à des savants blouses blanches. D'ailleurs, j'ai jamais eu de blouse blanche.
Oui, oui. Alors, ce qui fait que vous avez d'autres paires de lunettes que nous, en fait, hein, pour voir tout ce qui nous entoure.
Mais je pense que c'est le cas de chacun. Chacun a sa sensibilité. Des artistes auront leurs lunettes artistiques. Oui. Moi, j'ai des lunettes scientifiques.
Oui. Et je pense qu'avec Lison, on aurait du mal à aller dans ces équations.
L'artiste a sa subjectivité personnelle. L'artiste a sa subjectivité personnelle et individuelle. Tandis que vous, c'est quand même un langage qui est commun. Et qui en plus n'est pas dévoyé comme le langage où un mot peut avoir plusieurs sens.
Et puis il est très encadré, parce que c'est une vérité, on pourrait dire, en tout cas,
dans un domaine de la physique. Il y a un paradoxe là que j'essaie de faire passer aussi, c'est que, en fait, les équations donnent une certaine liberté. Ça n'encadre pas. Ah. Et ça donne une liberté parce que ça oblige à bien s'entendre sur les variables qu'on utilise, sur les quantités qu'on utilise, et à bien s'entendre sur le domaine de validité de l'équation aussi. Et donc après, on est libre d'aller chercher autre chose. Il n'y aura pas de malentendu.
C'est ça.
Il y aura pas. Donc c'est une forme de liberté qui est celle des gens qui s'entendent bien ensemble.
C'est ça. Il y a un consensus. Voilà. Et puis au-delà de ce consensus,
on est libre d'aller chercher.
Mais ça, c'est la créativité après du chercheur. Absolument. Parce qu'on peut chercher quoi? À remettre en cause l'équation?
Sans arrêt.
C'est vrai.
Notre métier, bon, actuellement, la physique des particules est décrite par ce qu'on appelle le modèle standard. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'équations tellement standard qu'on appelle le modèle standard. Et tout notre métier maintenant, surtout qu'on l'a complété avec la découverte du boson de Higgs, et notre métier maintenant, c'est de chercher
à unifier
les déviations au modèle standard. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans le modèle standard?
Et à unifier aussi. C'est-à-dire, trouver l'équation ultime. Vous dites un peu ça. Il y a le Graal des physiciens qui s'est trouvé l'équation du tout.
Hein? Est-ce possible? Exact.
Absolument, puisque ce modèle standard, il est incomplet. On sait qu'il est incomplet, on a découvert dans l'univers de la matière noire, de l'énergie noire, qui rentre pas dans le
modèle
standard.
Qui nous embête bien, là, pour le coup.
Qui nous embête bien, mais qui sont un défi passionnant. C'est des périodes les plus intéressantes de la physique, c'est quand on a des grands défis. On invite les jeunes, par exemple.
Là, il y a du boulot pour les générations à venir.
Il y a du boulot pour les jeunes.
Ouais. Mais la quête vraiment de cette équation quasiment ultime, au fond, est-ce qu'effectivement, comme vous le demandez, Lison Bernet, on pourra un jour la découvrir, selon vous? Pour unifier toutes les théories ensemble.
Je pense que... Sérieusement, au-delà de ce qu'on a maintenant, je pense qu'on va réussir à résoudre ces problèmes de matière noire et d'énergie noire. J'ai aucune idée quand. Et à ce moment, on aura effectivement un paradigme complet qui nous apparaîtra comme unifié. Et puis après, peut-être, quelqu'un viendra et dira « Ah, j'ai trouvé une petite déviation à ce nouveau paradigme » et on repartira pour un cycle de questionnement et d'unification.
Ouais. J'ai interrogé beaucoup de théoriciens cette année Et en fait, j'ai remarqué que c'était un peu comme l'œuf et la poule, quoi. Il y a la théorie poule hein, qui fait un œuf, qui donne naissance à une expérimentation, qui modifie la théorie, qui donne après naissance ou qui suscite une nouvelle expérience qui va encore ou invalider, ou améliorer, ou changer la théorie.
Oui. Sauf qu'avant de trouver la bonne théorie du tout, Bruno Mansoulier, il faudra d'abord dire si la matière noire existe vraiment ou pas, parce qu'on ne sait pas vraiment. Hein.
Oui. Oui, il y a une partie des physiciens, une grosse partie des physiciens qui pensent que c'est une matière qui existe, ouais. Qui a une réalité physique, et puis il y a quand même des contradicteurs.
Absolument. Ils sont... monde. Ouais, on les entend beaucoup ces derniers temps d'ailleurs.
Hein. Et on les entend d'autant plus qu'on ne trouve toujours pas la matière noire.
Ouais. Allez, bienvenue au pays des équations, c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré. On se retrouve après Radio Elvis et Solarium, et vos messages bien sûr, franceinter.fr.
Solarium. Premier jour de printemps, alignons le désert, faisons le point sur nos révélations. Déjà les choses t'échappent, tant le départ est proche. Autour de toi s'écroule ce que tu croyais là. Solarium, immobile en surface. Voyage au bout du monde, le moindre bruit s'efface. Dans l'étendue elle vaste, et n'être plus qu'une ombre. La menace d'un vestige, autour de toi s'écroule. Ce que tu croyais là. Solarium, et là tu sens c'est là. Chaleur qui te prend, et là tu sens c'est là. Hauteur qui te prend. C'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres, les porter à nos lèvres en un souffle premier. Le son et la lumière s'imposent à ton éveil. Là, quelque chose existe, là, quelque chose existe. Est-ce le vide qui s'avance ou l'instant qui nous guide? Là, quelque chose existe, là, quelque chose existe. Solarium, c'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres, les porter à nos lèvres en un souffle premier, fondu à la lumière, en ordre après la fuite. Ces rives vont révéler le sens qui se cachait là. Faisons le point sur nos révélations.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Et toute la physique, ou presque en 15 équations, c'est un livre qui sort aux éditions Flammarion, que vous signez, Bruno Mansoulier, et avec les illustrations de Lison Bernet, les messages des auditeurs sur franceinter.fr, et le mot-clé, l'attaque. Alors c'est quoi une bonne équation, Bruno Mansoulier? Quels critères, justement, il faut remplir?
Une bonne équation en physique, donc une équation, ça peut être juste un passage dans un calcul, mais c'est pas ce que j'appelle une belle équation de la physique. Une belle équation de la physique, c'est une équation qui est simple, et qui apporte un message important sur la façon de voir le monde.
C'est quoi la simplicité alors? Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Dans son énoncé même?
Oui, dans son énoncé même. Peu de caractère de chaque côté du
signe. E égale MC2 par exemple.
E égale MC2, c'est l'exemple parfait puisque c'est très simple. Il y a 4 caractères en plus du signe égal. Et elle énonce quelque chose d'extrêmement important, c'est que la matière et l'énergie sont la même chose, puisque d'un côté on a E, l'énergie, et de l'autre côté, on a M, la masse d'une particule ou d'un objet. Mmh. Et donc c'est l'équivalent, enfin la masse de la présence de matière est une forme d'énergie.
Et le C, c'est quoi dans l'histoire?
C'est la vitesse de la lumière.
Donc au carré.
Au carré. Ouais. Ce qui fait un très grand nombre. Donc, oui. Il faut juste voir que une différence de masse, par exemple, entre, bon, noyau atomique, est associée à une très très grande énergie. Mmh. Mais l'important, c'est que la masse d'un objet est une forme d'énergie. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on a des objets à qui on peut communiquer de l'énergie sous forme d'énergie cinétique, de vitesse. Mmh. Mais leur masse propre est une forme d'énergie, ce qui va changer complètement notre façon de voir le monde.
Alors, on va revenir sur Eugène MC2 dans un instant. Toujours pour rester sur ce qui est une bonne équation, vous dites qu'il faut trouver une bonne relation d'équilibre aussi dans l'équation. Ça doit traduire cette idée-là, en tout cas.
Ça traduit, oui, une notion d'équilibre. On a une équivalence, ça traduit. C'est pas seulement une égalité mathématique, c'est une équivalence physique entre deux concepts importants qui s'équilibrent. Si on prend aussi F égale M gamma, la force communique une accélération, quand on applique une force à un objet, on lui communique une accélération. C'est bien ça, on a la force d'un côté, l'accélération de l'autre, et l'équation elle dit que ces deux choses vont être proportionnelles, ça va s'équilibrer. On va pouvoir suivre l'accélération comparée à la force qu'on a communiquée.
Mmh. Lisons Bernier, comment on s'attaque à une équation aussi célèbre que E égale MC2 alors?
Bon, alors on pense à Einstein,
ah, voilà,
tout de suite, voilà.
C'est lui que vous avez dessiné.
Voilà, en fait, là, j'ai, comme Bruno dans ce chapitre-là, parle de ce à quoi amène l'équation, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne le Soleil, ça peut amener à la fusion et notamment à la bombe, à la bombe H. Donc moi, j'ai imaginé Einstein dans ses vieilles années. Oui. Qui y pense en fait. Donc il y a sa tête qui est coupée, il y a le champignon nucléaire qui sort.
Qui lui sort de la tête.
Qui sort de la tête, tels ses cheveux.
Ouais. C'est assez injuste d'ailleurs comme dessin au fond pour Albert. D'abord parce qu'il a trouvé cette équation alors qu'il était jeune.
Ouais.
C'est 1905, il est 26 ans. Et là vous le représentez à la fin de sa vie pour une action dont il n'est pas responsable finalement.
J'ai envoyé à des amis physiciens qui ont tous hurlé.
Ouais.
Ils m'ont dit mais c'est pas du tout lui qui a trouvé la fusion. Enfin. Voilà. Et
parce que on associe E égale MC2 à la bombe atomique, ce qui est exact dans l'idée, mais on peut pas.
Non, c'est pas tellement le sujet là, mais disons comme dans le texte, il raconte aussi le contexte historique ou ce à quoi ça a amené. Voilà, je trouvais que ça se justifiait dans le dessin.
Oui. Il y a Paul qui nous dit la photo E égale MC2 est sur Twitter. Donc je ne sais pas quelle est cette photo, mais en tout cas, vous pouvez aller la voir sur le Twitter de la tête au carré si vous avez envie de voir une représentation. Bruno Mansoulier, E égale MC2, donc c'est ça, effectivement. Il y a cette idée aussi du gigantisme, de la puissance. Et cette équation, à elle seule d'ailleurs, elle incarne une idée de la science aussi. Hein.
Oui, alors elle incarne une idée difficile de la science, puisque c'est aussi des conséquences comme la bombe atomique et l'utilisation.
Ouais.
Il y a heureusement pas du tout que cette équation-là dans le livre, mais je pouvais pas manquer de donner mes idées, enfin ma façon de comprendre égale MC2, qui quand même m'inspire aussi du respect, de la crainte et beaucoup de questions. Sur la responsabilité des scientifiques.
Absolument. Est-ce que d'ailleurs c'est pas avec cette équation qu'au fond le regard aussi du monde a changé sur la science elle-même, avec cette défiance et aussi de voir à quel point un simple calcul de la physique pouvait changer la face du monde et de la responsabilité bien sûr des scientifiques.
Oui, c'est évidemment une étape très importante dans la vision du public et de la science, mais je pense que c'est pas la seule et que les révolutions scientifiques qui ont conduit aussi à E égale MC2 mais qui sont plutôt au tournant du siècle, comme vous l'avez dit. En 1905, de la mécanique quantique et de la relativité, aussi sont passés dans l'imaginaire que la science avait pris son autonomie, que la physique n'était plus accessible par nos sens, en particulier la mécanique quantique dit que la réalité de la nature au niveau des particules et des atomes, elle se comporte complètement différemment de ce que nos sens nous indiquent.
Ouais.
Et donc, il y a ce côté que ça pourrait nous échapper. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, au moins, pour les professionnels, et j'espère, en allant à la rencontre du public, non, on peut recoller des sciences même compliquées, comme la mécanique quantique, à l'intuition de tous les jours.
À quel moment, ça, d'ailleurs, Bruno Mansoulier, on peut dire qu'il y a une sorte de rupture entre le monde de l'infiniment grand et celui des particules, justement, parce que vous dites qu'il n'y a pas de continuité, en fait. Il y a un moment où cette physique ne fonctionne plus à une échelle microscopique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la nature, justement?
Non, au contraire, depuis une trentaine d'années, le monde des particules élémentaires et l'infiniment grand, c'est-à-dire la cosmologie, se sont retrouvés. parce que depuis qu'on exploite la théorie du Big Bang, dans la théorie du Big Bang, on décrit tout ce qui se passe au niveau cosmologique avec la physique microscopique.
Alors, donc, à quel moment les lois, justement, fonctionnent plus entre elles?
Alors, la loi qui fonctionne plus entre elles, c'est la gravitation toute bête, celle qui fait tomber les pommes, et la mécanique quantique, qu'on n'a toujours pas réussi à réconcilier. Ouais. Mais en dehors de ça, qui est un très gros écueil, on a quand même une très bonne idée de du développement des éléments, de la façon dont les galaxies se forment, les étoiles, etc.
Paul Dirac, qui est-il alors?
C'est un chercheur anglais. Et c'est l'auteur de la fameuse équation de Dirac.
Que vous aimez tant, apparemment. Hein. Vous beaucoup. Dites c'est la plus belle, la plus pure.
Oui.
À quelle époque il vivait exactement?
C'est dans les années... Je me souviens plus exactement de la date. L'équation, elle doit dater de 28.
Ouais. Oui. On va écouter un petit sujet justement autour de Paul Dirac. Et puis ensuite, on va commenter son équation.
Here it is. Voici l'équation de Dirac. Gamma mu facteur de I déron moins EA mu psi égale M psi. N'essayez pas de comprendre. Regardez-la simplement comme la merveille qu'elle est. À placer sur le même plan que le roi Lear, la 5e symphonie de Beethoven ou l'origine des espèces de Darwin. Parce que derrière ces symboles, il y a la description parfaite du fonctionnement de la réalité à son niveau fondamental. C'est le code secret qui permet de décrypter la nature. Avec une élégance mathématique parfaite, l'équation de Dirac décrit une particule atomique voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière. Et ça, Dirac s'y attendait. Mais en regardant de plus près son équation, il remarque quelque chose d'époustouflant, de révolutionnaire. Par la suite, il dira que son équation en savait plus que lui. En substance, l'équation de Dirac lui dit qu'il existe un autre univers qu'on n'a jamais remarqué auparavant.
Et il s'en est passé des choses autour de cette équation, Bruno Mensoulier. Vous pouvez nous la relire, s'il vous plaît, qu'on entende aussi ce langage, parce qu'on ne pourrait pas, en tant que néophyte, interpréter cette équation. Ça donne quoi, alors?
Sous la forme dans laquelle elle est écrite dans le livre, ça donne I gamma mu dmu moins m psi égale 0.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, alors? Cette équation, on savait plus que
absolument.
Dirac lui-même.
Absolument. C'est pas la première fois. Je crois que les équations de Maxwell aussi contenaient plus que ce que Maxwell avait mis dedans.
Donc qu'est-ce qu'on entend alors?
Alors pour Dirac, il a cherché à décrire le comportement d'un électron. Donc on connaissait déjà bien l'électron, cette particule qui est banale, qui est une des constituantes de nos atomes. Et en particulier, dont on avait découvert la propriété qui s'appelle le spin, qui est l'espèce de rotation, sur elle-même, qui est apparenté à une rotation sur elle-même de l'électron, et qu'on ne savait pas décrire en équation. Les équations de la mécanique quantique et de la relativité ne permettaient pas cette description avec le spin. Et donc Dirac a cherché à résoudre ce problème-là, uniquement, d'écrire un électron avec son spin. Et il y est arrivé en écrivant cette équation. Et là, il se rend compte qu'il y a deux solutions. Il y a une solution qui est l'électron qu'il cherchait à décrire, et puis il y a une autre solution à l'équation. Et là, c'est vraiment le génie, parce que c'est une situation qui est très courante. C'est-à-dire on construit une équation pour décrire un phénomène, et puis il y a des solutions supplémentaires. En général, on se dit, c'est pas grave, on va mettre dans le manuel de l'équation, s'il vous plaît, ignorez les solutions excédentaires, d'accord?
Ouais. Mais pourquoi on fait ça, d'ailleurs? C'est de la paresse?
Non, parce que c'est naturel, on a construit l'équation pour faire...
On est content de ce qu'on a trouvé.
On est content de ce qu'on a fait, ce qui était déjà très bien, comme je dis dans le livre, il aurait déjà eu son prix Nobel rien que pour ça, certainement. Ouais. Mais là où il a vraiment été génial, c'est qu'il a cherché à comprendre ce qu'était cette deuxième solution. Il a commencé par penser que c'était des électrons qui remontaient le temps. Et c'était un peu bizarre. Et après, il s'est rendu compte que ça pouvait être une particule qui ressemble à l'électron, qui descend le temps tout à fait normalement, mais qui a une charge opposée de celle de l'électron. Et qui est susceptible même de s'annihiler s'il rencontrait un électron.
C'est l'anti-électron?
C'est l'anti-électron, qu'on appelle le positon. Donc, positon en français, positron en anglais, et qui a été découverte 3 ans plus tard, expérimentalement, dans les rayons cosmiques, et qui est maintenant utilisée par exemple dans la tomographie par émission de positons, qui est un examen médical, pas courant, mais fréquent.
Mais
en France.
On peut dire qu'il a découvert l'antimatière?
Il a absolument.
Au travers de cette histoire d'électrons?
Il a inventé l'antimatière à travers son équation.
C'est quand même génial, non?
Ah, c'est absolument génial.
Une découverte absolument gigantesque.
Ça veut dire qu'il a eu davantage foi dans son équation Il a pas mis de côté l'autre lecture possible de l'équation. Il a eu foi dedans, quoi.
Il a eu foi dedans au point de penser que la nature obéit à son équation.
Ouais. Mmh. Il y avait presque l'équation et l'anti-équation. Alors, du coup, comment vous l'avez représenté, Lison Bernet? Parce qu'il fallait illustrer cette division, au fond.
Oui. Donc, moi, là, j'ai parfois, pour illustrer ces équations, j'ai choisi de représenter le créateur, donc là, notamment Dirac, et je me suis imaginé comme une sorte de Janus, quoi, à deux visages.
Ouais.
Et un des visages est donc dans une couleur verte. C'est à la fois le même et l'inverse, sorte de superposition pas collée, quoi.
Matière, antimatière, toutes ces idées, on les retrouve. Allez, toute la physique, ou presque, en 15 équations, c'est chez Flammarion. Vous restez avec nous, on poursuit la discussion dans un instant. Gorillaz, à l'instant, dans cette tête au carré consacrée aux équations.
The theory of relativity is infamous for its difficulty. I want to show that there's nothing peculiarly difficult about it. Relativity is perfectly intelligible to anybody who is willing to think.
Au XXe siècle, on me connaît sous le nom de Albert Einstein. Et pour mon équation E égale MC carré. Je voulais comprendre la nature grâce aux mathématiques. J'ai eu une vision nouvelle de l'architecture de l'univers. J'en ai fait une théorie, la relativité générale. C'est une théorie sur la gravitation, cette force mystérieuse de notre univers qui attire les étoiles et les planètes entre elles. Avant ma théorie, la gravitation était depuis 250 ans le domaine du grand scientifique Isaac Newton. Ma théorie a complètement bouleversé le monde de la physique et de la mathématique.
Bruno Mansoulier, alors on parlait d'E égale MC2, hein, vraiment l'équation superstar du jeune Albert Einstein. Et alors l'équation de la relativité générale, pourquoi on la connaît moins, en tout cas, pourquoi est-ce qu'elle est moins rentrée dans les esprits?
Parce qu'elle demande des outils mathématiques beaucoup plus évolués que E égale MC2, qui est E égale MC2, c'est de l'arithmétique.
Ouais. Quelle alors est-elle, cette équation justement de la relativité générale?
Je la lise comme un scientifique.
Oui, absolument.
Ça se lit R minu moins 1 demi de G minu R égale 8 pi G sur C4 T minu.
On comprend que ce soit moins populaire que Galilée, quand même. Qu'est-ce qu'elle dit, cette équation, alors? Qu'est-ce qu'elle nous raconte?
Elle raconte que la géométrie de l'espace-temps dépend du contenu en matière. C'est-à-dire que si on met de la matière, comme une étoile ou une galaxie, ça déforme l'espace-temps autour de cette matière.
Ouais. Et qu'est-ce que Lison Bernet, vous avez dessiné autour de ça? Amusez-vous, hein, on a envie de vous dire. Hein, parce que,
hein, des montres molles, une montre molle.
Ah, c'est vrai?
Oui, dans l'espace.
Bon, donc ça, c'était
le temps déformé par la matière et un humain qui court dessus pour essayer de rattraper tout ça.
Bruno Mansoulier, est-ce qu'il y a une liste des équations à découvrir comme il y a la liste des grands problèmes mathématiques qui font l'objet justement de quêtes partout dans le monde?
Il y a en quelque sorte une liste des grands problèmes de la physique qu'on a déjà évoqué, essentiellement le problème de la matière noire qui est observée dans l'univers et le problème de l'énergie noire. Alors pour la matière noire, nos amis théoriciens sont pas avares de théories qui peuvent la décrire. Donc en particulier, il y a une théorie célèbre qui s'appelle la supersymétrie.
Oui.
Donc on n'a toujours pas découvert. Donc on peut dire qu'on dispose des équations de la supersymétrie. Malheureusement, on l'a pas encore découvert. Mais par contre, on peut, à l'aide des équations, faire des prédictions qu'on peut tester. Par exemple, au LHC, au CERN, tous les jours, on teste des modèles supersymétriques. Et on essaie de voir si les équations de supersymétrie sont satisfaites dans les expériences.
Ouais. À chaque problème de la physique, il y a une équation qui lui est dédiée ou pas?
Alors actuellement, oui. L'écriture des propriétés des particules se fait sous la forme d'une grosse équation qu'on appelle un Lagrangien, du nom du physicien Lagrange, dans lequel on met à peu près tout ce qu'on sait. Et après, on a un procédé, un algorithme qui permet de déduire les équations du mouvement, les façons dont les particules interagissent entre elles et se propagent. Ça n'est qu'une notation, c'est un résumé de tout ce qu'on sait, on l'inscrit dans une grosse formule. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que cette formule soit la plus condensée possible, soit la plus esthétique possible.
Oui.
Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Si on prend le Lagrangien du modèle standard, je l'ai mis dans une page du livre, et c'est une formule qui n'est pas très jolie actuellement.
Oui, justement, Jacques nous dit qu'il faut parler des équations de Maxwell, qui sont le siège des premières émotions pour les physiciens.
Moi, j'ai ri en lisant ce texte. Quand j'ai reçu le papier, je ne pensais pas que je rirais en lisant un livre sur les équations, mais j'ai ri en...
Qu'est-ce qui vous a fait rire, Lison Bernet?
Quand ils racontent, quand ils serrent la main, qu'ils n'osent pas poser la question, est-ce qu'ils ont fait les équations de Maxwell ou pas?
Exercices, parce qu'il se trouve que c'est vrai, les équations de Maxwell, c'est un grand moment d'émotion quand on les apprend, parce que aussi, ça unifie donc les champs électriques, les champs magnétiques, les charges, les courants, et c'est aussi un ensemble d'équations où on peut lire plus, puisque on parle au début que de champs électriques, magnétiques et de courants, mais elles contiennent la lumière, les ondes radio, la propagation des ondes électromagnétiques.
Ouais.
Donc c'est quand même aussi un grand monument. Mais dans le livre, je dis qu'il y a une bible de cours, et un cours qui est le cours de Jackson, et qui est, bon, c'est une bible extrêmement intéressante, mais il y a aussi dans chaque chapitre des exercices affreusement difficile pour les derniers. Et donc, moi, je les ai pas fait tous et j'ai jamais osé demander à un collègue, est-ce que toi, les exercices du Jackson, tu les as tous faits?
C'est quoi cette dernière page que vous nous offrez d'ailleurs, avec une page entière de gribouillis, de hiéroglyphes?
C'est justement
de la physique.
Quelqu'un qui a eu le courage d'écrire le Lagrangien, donc l'équation du modèle standard de la physique des particules en entier. C'est-à-dire pas en forme résumée, condensée, mais en entier.
Ouais.
Et effectivement, on voit qu'il y a du travail pour essayer de condenser, c'est-à-dire de trouver des nouvelles symétries, de rassembler des propriétés qui permettraient de comprendre pourquoi il y a tous ces termes.
Ouais, vous pouvez nous en lire un tout petit bout, Bruno Mansoulier, pour vous quitter en écoutant le son de l'équation, parce qu'on aime bien.
Oui, mais d'habitude, je suis plus attaché au côté graphique, mais c'est amusant d'avoir le côté sonore des équations.
Absolument,
c'est très inhabituel.
Tout à fait.
Donc la première ligne, on lit moins 1 demi de d nu g mu a d nu g mu a, moins gs f abc d mu g nu a g mu b g nu c, moins un quart de gs carré f abc f adc g mu b g mu c g mu d g nu e plus, etc.
Ah, moi j'adore. Hein. C'est bien pour s'endormir le soir, non? Finalement, hein, pour les insomniaques.
Je peux vous dire quand même que personne ne lit l'équation du modèle standard sous cette forme.
Ah, hein. Mais c'est très beau. En tout cas, on adore ça. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Toute la physique, ou presque, en 15 équations, c'est justement pour comprendre la nature, parce que vous parlez des fluides, par exemple, des reflets. On voit qu'il y a des choses très concrètes dans la nature qui sont expliquées par les équations. Et c'est ce livre publié chez Flammarion, avec vos illustrations, Lison Bernet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Mathieu.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec Le Supplément, Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Et aujourd'hui, vous nous parlez d'argent.
Oui, de choses beaucoup plus concrètes. Alors Mathieu, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, je vous ai donné la liste des bactéries qui colonisent vos billets de banque.
Oui.
C'était oublier qu'une autre cochonnerie a de bonnes chances d'avoir élu domicile sur vos bifetons, la cocaïne.
Allons bon.
Deux raisons expliquent le phénomène. La première est bien connue, si vous êtes un tant soit peu cinéphile, une bonne ligne de coke se sniffe avec un billet roulé en tube. La seconde raison tient au mode de commercialisation de la cocaïne qui est difficilement payable avec une carte de crédit.
Mmh.
Les échanges se font de la main du dealer à la main du consommateur, ce qui multiplie les risques de contamination. Toute la question est de savoir combien de billets sont porteurs de poudre et combien dans votre portefeuille il y a de coke en stock.
Pour le dire
autrement, Mathieu, est-ce que ça vaut la peine de gratter tous les billets qui passent entre vos doigts pour vous faire un rail ?
Il y a vraiment des organismes de recherche qui s'intéressent à ça.
Alors tout dépend ce qu'on entend par organisme de recherche. Ici, il s'agit du FBI.
Ah oui.
Qui a demandé à des scientifiques de répondre à la question. Ils se sont concentrés sur les dollars, on est aux États-Unis, et ils ont analysé plus de 4000 billets verts issus de trois sources, des billets tout neufs, jamais mis en circulation pour servir d'étalon, de l'argent lambda récupéré auprès de banques de 43 États américains, et enfin du pognon saisi par les agents fédéraux lors de démantèlement de réseaux de narcotrafiquants. Alors je précise que les instruments utilisés pour l'analyse étaient sensibles au nanogramme près. Un nanogramme vaut un milliardième de gramme.
Alors, qu'est-ce que ça a donné, Pierre ?
Alors, les résultats sont édifiants. L'étude assure qu'un niveau significatif de cocaïne a été détecté sur 97% des billets.
Oh.
Alors, les quantités sont minimes, hein, 2,34 nanogrammes en moyenne pour les billets fournis par les banques. Ceux qui provenaient des saisies policières pouvaient contenir jusqu'à 10 000 fois plus de cocaïne quand même.
Ah, ça devient
mais
plus
tout de même.
Ouais.
Tout de même, Mathieu, 97%. Alors, avant de demander à Donald Trump qui en serait bien capable de jeter en prison 97% de ses concitoyens, précisons que deux phénomènes peuvent expliquer cette quasi-omniprésence de la coke sur les dollars. Tout d'abord, le fait que l'encre des fameux billets verts ne se solidifie jamais complètement, ce qui permet l'adhésion de particules diverses.
Mmh.
Et surtout, il y a l'utilisation par les banques, mais aussi par les entreprises commerciales, de machines à compter les billets qui diffusent la cocaïne présente sur certains billets à tous leurs petits camarades.
Oui.
Alors à ceux qui pensent que l'Europe n'est pas l'Amérique junkie et qui croient notre cher euro épargné par ce fléau, il faut infliger un démenti. Une étude irlandaise de 2007 a montré que dans l'agglomération de Dublin, le taux de contamination des euros par la cocaïne était de 100%.
Bon, on retrouve cette chronique dans le supplément Sciences et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu du supplément ?
Alors cette semaine, le grand dossier est consacré à la traque d'une hypothétique 9e planète du système solaire, la planète X, que beaucoup d'astronomes prennent désormais au sérieux.
D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez le programme de voyage dans le cosmos de cette semaine ?
Alors le programme de voyage dans le cosmos, c'est les grandes structures de l'univers.
Bravo, merci beaucoup et à la semaine prochaine.